Salut Daniel, ben, j'ai les boules, je fais 1m87, je pourrais jamais être pris en photo avec Sarko. Oh les boules.
Oui, bonjour à tous, bonjour Daniel. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt autour du diplôme, surtout concernant les valeurs du travail autour du service public. Et je suis toujours étonné de voir comment France Télécom passe encore pour une entreprise publique alors que c'est une société anonyme cotée en bourse depuis 1996 et que de plus en plus ça devient une sorte de laboratoire de la privatisation des services publics. Donc c'est vrai que on a beaucoup parlé de France Télécom ces dernières semaines à cause des suicides, mais on en parle très peu autrement. Elle est banalisée, alors qu'en fait c'est une tête de pont de tout ce qui se dessine et de tout ce qui se met en place. Et notamment quand on parle de la moralisation du capitalisme, aujourd'hui à France Télécom, on continue largement comme avant de faire des promesses de dividendes élevés aux actionnaires, de faire des fusions, des nouvelles acquisitions, des fusions plutôt que de rembourser la dette qui reste encore colossale. Enfin voilà. Donc vraiment, il est important d'avoir un œil un petit peu acéré sur ce qui se passe à France Télécom pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde du travail, notamment dans les services publics d'aujourd'hui qui sont dans l'œil du cyclone.
Oui, bonjour à toute l'équipe de là-bas et bonjour à tous les auditeurs. Et super content de vous retrouver. C'est Dominique de Bayeux. Alors comme ça, il paraît que le Nain de Jardin, premier VRP de France, actuellement au Brésil, en train de vendre les plantes pour la conception des rafales, nous ferait des complexes sur sa petite taille. Allons bon. En attendant, une fois que les Brésiliens sauront construire ces avions, que les Chinois feront de même pour le TGV, et ainsi de suite, à force de vendre le savoir-faire français là où la main-d'œuvre est la moins chère, les salariés de notre beau pays ont du souci à se faire. Au fait, les Américains ou les Russes, quand ils vendent des avions de chasse, est-ce qu'ils fournissent les plans de fabrication avec? Si t'as la réponse, Daniel, j'aimerais bien la connaître. Allez, bon courage à tous, il va en falloir. Ciao.
Allô, c'est Marie-Vonne de Rennes, à qui l'émission a bien manqué pendant cette longue période d'été. La phrase va être très courte, c'est une phrase de Éric Besson, qu'on a entendue sur France Inter le 26 août de cette année à l'émission de 13h. Je vous laisse la phrase à votre réflexion et continuez à travailler malgré la phrase. J'ouvre les guillemets, parce que j'ai recopié la phrase quand il l'a dite. J'ouvre les guillemets. Les auditeurs de France Inter sont assez atypiques par rapport aux Français. Fermez les guillemets. Donc, vous parlez seulement à des atypiques. Merci pour vos émissions sensationnelles.
Atypiques, modestes et géniaux. Bonjour, merci pour ces messages. Aujourd'hui, avec Dila Tebi, on va aller compter les burkas. Ouais, on va à Lyon, on va à Vénissieux exactement, où l'on va compter les burkas. Vous savez que ça a été une activité au cours de l'été. Vous êtes au courant comment nos ex-renseignements généraux ont publié un titre qui a beaucoup étonné, qui a beaucoup refroidi aussi d'ardeur ce nombre de jeunes femmes ou de femmes, on ne sait quoi d'ailleurs dessous, ça peut être aussi des jeunes gens ou des hommes porteurs de burqa. Ils sont arrivés au chiffre de 367, ce qui est tout à fait extraordinaire. Mais d'autres études de nos mêmes ex-renseignements indiquaient qu'effectivement en France le nombre de ces burqas, comme on dit, qui ne sont pas d'ailleurs des burqas, était assez insignifiant. Insignifiant, pas pour tout le monde, puisque vous vous souvenez comment, au mois de juin, avant que nous partions en vacances, les uns et les autres, pour ceux qui sont partis, eh bien, cette histoire a fait grand bruit, et dans les semaines qui viennent, à nouveau, cette histoire va faire grand bruit. Donc, on va s'y intéresser aujourd'hui et on va aller compter les burqas, mais pas seulement. Vous vous souvenez peut-être, il y a des années, c'était exactement en 1985, comment un certain Christo, qui est un artiste, un grand artiste, avait emballé le Pont-Neuf. Vous vous souvenez de ça, si vous êtes parisien, même si vous n'êtes pas parisien, parce qu'il y avait eu des centaines de milliers de visiteurs à voir le Pont-Neuf emballé entièrement, emballé sous une immense toile dorée retenue par des câbles et par des chaînes. Eh bien, le Pont-Neuf était voilé. Et c'était un étonnement, c'était d'une très très grande beauté. Cet emballage du Pont-Neuf montrait la beauté de l'architecture, la masse, les lignes, la force, la grâce de cet édifice. Et encore plus émouvant a été le moment où on a enlevé ces voiles pour redécouvrir un Pont-Neuf encore plus gracieux, encore plus merveilleux, encore plus chargé d'histoire, si c'est possible. Et je me suis dit que la burqa, c'est peut-être ça, le niqab, c'est peut-être ça. On a voulu un siècle, le dévoilement a voulu tout dévoiler. La devise du XXe siècle, ça a été à poil, à poil, à poil. Peut-être que la burqa, le niqab, comme on veut, remet la pendule à zéro. C'est une hypothèse qui n'a pas grand-chose avec la réalité que nous allons découvrir jusqu'à 16h dans la base J'y suis avec Dila Tibi. Auparavant encore, quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les AMG et ex-vacanciers se réuniront à Montreuil-sous-Bois, métro Croix de Chavaux, 14 rue du Capitaine Dreyfus, à la pizzeria Bar, mercredi prochain 9 septembre à 19h. À très bientôt, cette réunion de rentrée, allez, on peut le dire, soulagée que l'émission se poursuive.
Et bonjour, Xavier de Saint-Vigor dans le Calvados. Je me permets de t'appeler pour signaler qu'au Burkina Faso, en ce moment à Ouagadougou, des violents orages se sont abattus. Il y a 150 000 personnes sans abri dans les rues et un peu plus d'une dizaine de morts. Personne ne s'en inquiète, la communauté internationale le moins possible. Ça serait bien qu'on puisse envoyer aussi quelques hélicoptères ou quelques aides pour leur filer un petit coup de main. Merci.
Je le dis en pensant en particulier
Dame de juin 2009.
Aux Français de confession musulmane.
Nicolas Sarkozy.
Nous ne devons pas nous tromper de combat. Dans la République, la religion musulmane doit être autant respectée que les autres religions. Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme. La burqa. La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement.
Bonjour, je viens pour compter le nombre de burqas.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
Bonjour, je viens compter le nombre de burqas.
Allez, couillons. Bonjour.
Moi, c'est bien pour 2 euros. Moi, c'est bien pour 2 euros, frère.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base J'y suis avec Dila Tebi. Ce que la burqa nous voile.
Flight number 2. Arriving from New
York. Bonjour. Je viens pour compter le nombre de burqas.
Le nombre de quoi vous avez dit?
De burqas.
Je n'ai pas croisé.
On m'a dit qu'il y en a 367 et près de 200 non, rien que pour Lyon et sa région.
C'est des mensonges, c'est non, des mensonges.
C'est marché de charpennes.
Mais sur combien d'habitants? Sur 60 millions d'habitants, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. C'est
Le voile, je ne suis pas contre, mais la burqa, non. La burqa, pour moi, c'est de l'emprisonnement.
Non, mais c'est un peu compliqué.
C'est atteinte aux droits de l'homme.
C'est-à-dire
Je ne pense pas que le regard d'une femme doit être censuré par un accessoire.
Vous faites quoi dans la vie, vous?
Moi, je suis assistante dans l'industrie.
Moi, je suis informaticien.
Vous avez quel âge?
J'ai 50 ans. S'ils veulent garder la forme, ils la gardent, mais au moins qu'on voit les yeux de ces dames. Bon, les gens qui viennent, par exemple, des pays du Moyen-Orient, etc., quand on fait les marchés, il y en a qui ont la burqa. Mais je veux dire, il y a un temps d'adaptation aussi quand on s'intègre à un pays, un certain temps d'adaptation. On ne peut pas leur demander aussi du jour au lendemain s'habiller en costard-cravate. Hein. Je veux dire, voilà, il y a un temps d'adaptation.
Certaines d'après ce que j'ai compris, hein, oui, certaines sont nées en France.
Oui, beaucoup. Mais parce qu'ils sont... je pense que dans l'éducation, on les éduque comme ça aussi. Parce qu'en fait, les gens sont très... ces populations-là, en plus, sont très conservateurs de leurs traditions. Des fois, c'est leur façon à eux de se protéger, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être ça aussi, oui.
À votre avis, elles se protègent de quoi, ces femmes?
Ben, pas s'occidentaliser trop vite, quoi, par exemple. Hein. Oui, c'est peut-être une forme de protection, oui.
Ah, ouais. Voilà, chacun a sa façon sujet de... Dans voilà. Son parti, et ouvrir le sujet à travers des programmes, à travers des réflexions sur la sécurité, ouais. Mais pas au niveau, au niveau parlementaire. C'est là le problème.
Ils arrivent. Cette fois, plus aucun doute, ils sont là, ils sont parmi nous chaque jour, un peu plus nombreux chaque jour, davantage. C'est une invasion planifiée, de longue date, un long travail d'infiltration. On pourrait remonter, bien sûr, loin dans l'histoire, mais qu'on se souvienne comme ils se sont introduits dans nos usines, sur nos chantiers comme d'innocents travailleurs que nous avons accueillis et pour qui nous avons construit des logements avec des baignoires dans lesquels ils sont venus égorger leurs moutons. Que l'on songe à ces sympathiques épiceries, l'arabe du coin, le couscous du coin. Mais sous la merguez, c'était déjà le djihad, la conquête, ou plutôt la reconquête de l'Occident. Aujourd'hui, ils brûlent des voitures, ils droguent nos enfants, ils violent les femmes dans les tournantes. Pour elles, aucun autre choix, c'est soit pute, soit soumise. Et tout cela, évidemment, est impuni. La France se couvre de mosquées, le ramadan est une fête nationale. Les voici footballeurs, acteurs ou même ministres, une femme en plus, rien ne les arrête, même pas l'armée américaine en Irak. Les attentats du 11 septembre n'ont pas suffi à faire prendre conscience à un Occident cupide et avachi. La pieuvre verte tisse sa toile, l'islamo-fascisme est à nos portes. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes. Mais ils sont avant tout parmi nous. C'est une cinquième colonne et ils attendent le signal, le grand signal, pour prendre le pouvoir. Bientôt, le drapeau vert flottera sur l'Élysée. Ils sont déjà dans les médias, dans la police, dans les ministères. À tous les postes clés, ils sont partout. Alors, que faire? Résister? Non, il faut se rendre à l'évidence. Il faut être pragmatique. Nous devons les adopter, et faire ce que nous avons déjà fait dans le passé, c'est-à-dire collaborer. Apprenons l'arabe et la danse du ventre, fini l'alcool et le cochon, et surtout apprenons à nos femmes à porter la burqa. C'est le plus difficile, je le reconnais, mais songez à la finance islamiste, songez aux Émirats du Golfe. Vous voyez des images de Dubaï? Nous n'avons plus les moyens de faire le difficile. Jusqu'à 16h, tout sur la burqa. Merci, la basse.
On est plus chez nous. Fiche, ma fille va épouser un Morico. Notre camp crie youyou au lieu de cocorico. Elle s'est mise en tête de se convertir, rejoindre notre camp. J'aurais encore préféré que ce soit un mariage blanc. Mais je les vois, on dirait des gitans. L'argent des Alas transformé en or sur les cartons. Moquerait plus que le voyage de noces en Afghanistan.
Jamais sans ma fille.
Je souffre déjà de ce qui m'attend. Et quand ils dansent, on dirait une émeute.
Mais qu'est-ce que t'as fait toi hein?
Qui fait baver la meute? Les pères ont les claquettes, les filles ont les baskets. Même avec le costard, la racaille met des casquettes. Ma fille s'appelle Marianne et je vis le drame.
Allah habibi Allah.
Ça plaît même à ma femme. Je suis déçu, moi qui pensais qu'ils étaient polygames. J'aurais peut-être pu présenter mes maîtresses à ma femme.
Hey, dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous.
des voyous, des hôpitaux, des mamadous. Au secours, on n'est plus chez nous.
Des derboukas, des tam-tams et des marabouts, hey, ouais. Des grosses moustaches, des zoulous, des danses vaudou. Ça baragouine des charabias, ouais, il est là. Tout est bon, c'est Hellebès. Faut les voir quand ils débarquent avec toutes leurs smalas, avec toutes leurs marmailles, on se croirait à la casse-bas. Ils nous emmerdent, ils nous saoulent avec leurs traditions, leur code de la famille, leur rituel, leur religion. Je suis pas raciste,
ouais, non.
Mais là y'a des limites,
ah, oui.
En France monsieur, on a des règles de conduite. Il y a un siècle, ils étaient tous encore parqués dans des eaux. Et aujourd'hui, ils veulent nous piquer notre boulot. Ils veulent être ministre, étudier à sciences politiques. Et pourquoi pas devenir président de la République,
bah, voyons.
C'est le monde à l'envers, y'a plus d'hiérarchie, plus de respect. Ça veut même plus rien dire d'être un vrai français. Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des zoubidas, des mamadous. Au secours, on n'est plus chez nous. Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des zoubidas, des mamadous. Au secours, on n'est plus chez nous.
De l'Express. Christophe Barbier.
367. Elle serait, selon la police, 367 seulement en France.
30 juillet 2009.
À porter la burqa ou le niqab, le voile intégral. Précision du chiffre et légèreté des commentaires. Évidemment, tout cela est faux. Il suffit de descendre dans les rues de certains quartiers, riches ou populaires de notre pays, pour se rendre compte que beaucoup plus de femmes musulmanes portent un voile intégral, un voile incompatible avec les valeurs républicaines. Il faut bien entendu lutter contre la présence de la burqa, du niqab en France, quelles que soient les raisons pour lesquelles ce voile est porté. Il y a évidemment une stratégie des islamistes de faire reculer la démocratie, de profiter de la faiblesse des démocraties pour avancer leur pion, pour marquer des points, pour engranger des victoires morales. Il y a dans la burqa une forme d'excision mentale. En moins grave, bien sûr, on peut enlever une burqa, l'excision est irréversible. Mais sur le fond, il y a cette négation de l'individu, de la femme comme individu, et ça c'est intolérable. On nous dit, dans ce rapport de la police, que la plus jeune des femmes porteuses de burqa qui a été recensée a 5 ans. Ce seul détail devrait nous inciter à faire une loi contre la burqa. Comment peut-on ensevelir sous un voile religieux une petite fille de 5 ans ?
Allez, couillons !
Voilà, ainsi parle Christophe Barbier, éditorialiste du journal L'Express. La burqa, une forme d'excision mentale et le signe d'un complot islamiste. Rien que le choix du mot burqa devrait déjà prêter à controverse, puisque la burqa est exclusivement portée et visible en Afghanistan, chez les Tadjiks comme chez les Pachtounes, ceux qui ont aimé le commandant Massoud il y a quelques années, n'oublie pas bien évidemment que dans le Panjshir, les femmes portent la burqa, et qu'à l'époque, en 2001, d'ailleurs comme en 2006, au cours des reportages qu'on a fait là-bas, on avait parlé de génocide, G-Y-N, génocide. Le niqab se porte dans les pays du Golfe persique, et c'est effectivement ce vêtement noir qui laisse à peine voir les yeux de l'extérieur. Et c'est un vêtement de ces régions-là et qui est apparu en France très rarement, puisque ces deux rapports différents des services français montrent que leur nombre est très très limité. On les voit dans les quartiers populaires, là, en l'occurrence Vénissieux où nous sommes, mais aussi dans la banlieue parisienne, dans le 9-3 ou dans le nord de la France. Alors voilà, on s'est beaucoup inquiété de cette affaire. Ce témoignage, cet éditorial en témoigne, mais beaucoup d'autres, fin juin, se sont inquiétés au point qu'une commission va être constituée pour enquêter sur une commission parlementaire sur le port du voile intégral pour essayer de mesurer l'ampleur de ce désastre et en quoi est-ce qu'il constitue le signe d'un complot contre la République. Tout ça est parti d'un homme qui s'appelle André Gérin, qui est l'ancien maire de Vénissieux, qui est député aujourd'hui et qui est quelqu'un qui connaît bien ce terrain. Il est député maire communiste. Il connaît bien ce terrain, il connaît bien Vénissieux, il connaît bien les quartiers sensibles, l'islam de ces quartiers. Et c'est lui qui a déclenché cette nouvelle campagne. Elle n'est pas nouvelle, bien évidemment. Il y a eu le voile auparavant. On va évoquer cette longue histoire, ce que Thomas Deltombe, le chercheur Thomas Deltombe, appelle l'islam imaginaire, mais ça c'est son point de vue à lui, on va le retrouver. En tous les cas, voici le point de vue aujourd'hui de l'ancien maire de Vénissieux, le député communiste André Gérin.
Depuis plusieurs années, en France et dans mon périmètre de l'agglomération lyonnaise, qu'est-ce qu'on observe? De plus en plus de femmes qui sont dans des cercueils ambulants, sur les marchés, dans les rues, à la sortie des écoles. Alors problème d'une directrice d'école à qui je remets l'enfant, j'ai un fantôme devant moi. Problème pour établir une carte d'identité ou un passeport, le refus de se dévoiler. Problème du médecin homme à l'hôpital, etc. Donc voilà, problème pour parler concret, précis, pour établir un mariage. Donc voilà, problème concret. Et aujourd'hui, de plus en plus régulier, il y a des conflits, voire des hommes qui accompagnent les femmes, qui menacent des fonctionnaires dans certains territoires. Donc voilà. Et pour moi, quand j'ai fait ma proposition de commission d'enquête, c'est tout ce cheminement de choses qui se passent dans la société française, cette prise de conscience, me semble-t-il, et que cette question, pour moi, elle est républicaine. Pour moi, l'objectif de la mission d'information, c'est de faire un état des lieux. C'est de comprendre ce qui se passe et de déboucher sur des préconisations. Et pour moi, les préconisations, il faut qu'on puisse les élaborer en coopération avec les associations féminines, les associations laïques, les associations musulmanes qui veulent un islam apaisé, respectueux de la République, respectueux de la laïcité de la France. Et c'est ce chemin-là qui m'intéresse pour faire reculer l'emprise des fondamentalistes sur une partie de la vie civile et notamment de nos gamins dans certains quartiers.
Alors, quand vous dites fondamentaliste, c'est les salafistes?
Je pense que c'est les salafistes. Dans tous les cas, je suis sûr d'une chose, c'est que quand on regarde de près ce qui se passe, on voit bien que derrière tout ça, il y a des coutumes moyenâgeuses, derrière tout ça, il y a une sorte de retour en arrière qui serait incroyable. Quand on voit ces femmes qui sont dans des cercueils ambulants, on se dit, attends, on est où? On est où? On est comment? Et c'est sous couvert de la religion. Or, en fait, derrière, il y a un projet politique. Derrière, il y a une contestation de la société, à la fois vis-à-vis des femmes, mais surtout, y compris, la contestation des valeurs démocratiques progressistes de la France, de l'Occident, je dirais, en général. Et je trouve que ça, c'est très, très important.
Il se trouve que pour le voile intégral, en France, il y aurait 367 cas.
Ridicule.
Pour vous, c'est faux?
C'est ridicule. Ouais, je réponds ça, moi. Mais ça me fait rigoler.
Il y a une mission d'information en ce moment, mais vous parlez de cercueil ambulant.
Oui.
C'est un jugement de valeur.
Je n'ai pas justifié ce que je vous dis. Pour moi, c'est des cercueils ambulants. C'est la négation de la différence et de la féminité et de la femme. C'est même du talibanisme.
Je vous sais assez direct habituellement, oui. J'avais cru comprendre, avant même ce débat,
France 2,
que, en tout cas, vous, ça vous enchantait pas, ces histoires de burqa.
29 juin 2009.
Pour ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je le dis très clairement.
Fadela Amara.
Moi, je suis heurtée quand je vois des burqas, quand je vois des niqabs. Ça me rappelle tout simplement qu'il y a la présence ici de courants fondamentalistes intégristes dans notre pays. Ça me rappelle aussi que nous sommes dans une situation, et le président de la République, Nicolas Sarkozy, l'a très bien rappelé dans le discours de Versailles, que ce n'est pas un signe religieux, mais que là, nous avons affaire à autre chose qui touche à la dignité de la femme et qui prône l'asservissement des femmes. Donc, on est dans le débat de la question du respect de l'égalité homme-femme. Donc, on est dans le débat d'une valeur fondatrice de la République.
Vous avez parlé de cercueil qui tue les libertés fondamentales. L'image vous semble appropriée?
Oui, même si elle peut paraître, si elle peut bousculer l'ordre établi et les bien-pensants de ce pays.
Alors Abdelaziz Chambi est-il un des bien-pensants de ce pays? C'est lui qu'on rencontre maintenant, il a 52 ans, c'est un militant associatif, il a des heures de vol derrière lui, il était présent, il fut l'un des protagonistes de la marche des beurs en 1983, et il connaît très bien le maire de Vénissieux, André Gérin, il est d'un de ses interlocuteurs, Abdelaziz Chambi.
Donc là, Abdelaziz, on est donc au milieu des Minguettes. On est entouré de tours, il y en a pas mal, des tours de quoi, 10, 15 étages. C'est ici, d'après monsieur André Gérin, qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de femmes qui portent la burqa, le voile intégral. Plus de 200 rien que pour les Minguettes.
Plus de 200 pour les Minguettes, c'est entièrement faux. C'est une sorte de d'épouvantail qu'il a sorti pour dire « Aidez-moi, venez avec moi vers la nouvelle croisade ». On a George Bush qui a dit, après le 11 septembre, la croisade. On a aujourd'hui des gens comme André Gérin, ou d'autres d'ailleurs au niveau national, qui nous sortent la même rengaine, c'est-à-dire qui exploitent le même fonds de commerce. Cette question de la diabolisation de l'autre, de l'amalgame entre islam, islamisme, intégrisme, terrorisme, etc. Et ça rend... C'est rentable, eux ils l'ont compris. Donc c'est une sorte d'exploitation comme ça, fictive, de phénomène qui s'est inventé. Ils existent, on ne dit pas qu'ils n'existent pas, mais ils les ont amplifiés d'une manière extraordinaire au point que ça a résonné dans les réseaux, manipulateurs du temps. C'est des manipulateurs du fait social. Aujourd'hui, on est sur des problématiques économiques, sur des crises sociales, sur des pouvoirs d'achat, sur des licenciements par milliers, sur une mondialisation qui arrive en bout de course, etc., qui capitalisme qui se casse les dents. Et qu'est-ce qu'on nous sort du chapeau ? Un mec comme lui qui est censé prôner la révolution ou je ne sais quoi, ou le socialisme, machin, il nous sort un truc à la noix, un truc de derrière les fagots sur des foulards, des burkas, qui représentent à peine 300, mais quand bien même il y aurait 10 000 cas, il est où le problème ? Et il y a eu 15 000 morts pendant la fameuse canicule, on ne l'a pas vu monter au créneau pour imposer une loi, pour dire aux enfants, prenez en charge vos parents et qu'on n'enterre pas 60 cadavres qui ont été non reconnus par les leurs et qu'on était obligé d'en mettre à la fosse commune. C'est scandaleux. Donc ce mec-là, il a visé la place de Marie-Georges Buffon. On l'a vu, c'est sorti au niveau national. Lui, ce qu'il veut, c'est arriver là-haut. C'est arriver à avoir cette aura nationale, cette visibilité au niveau national qui lui manque tant. C'est pas le fait du hasard qu'on me la joue pas à moi. Quand on voit le président de la République qui nous dit ceux qui font qui égorgent leurs moutons dans la baignoire, etc., à qui il fait référence? Il fait référence aux musulmans. Quand on voit Ségolène Royal en pleine campagne électorale nous dire « Moi, je suis la candidate des femmes voilées, des femmes violées, des femmes excisées », eh bien, on vomit, on dit « Mais c'est quoi ce truc ?» La droite, la gauche confondues font un fonds de commerce sur notre identité, sur notre réalité, sur notre vécu. Mais c'est criminel comme attitude. C'est pas des courageux. Qu'ils apportent des solutions économiques, qu'ils apportent des solutions sur le partage des richesses, qui ne viennent pas se faire les dents, comme on dit sur nos côtelettes, parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens politiques de leur casser les dents.
Voilà le point de vue d'Abdelaziz Chambi, on va le retrouver. Mais évidemment, cette burqa a une histoire, et on ne manque pas de la raconter. Voilà. Thomas Deltombe, dont je vous parlais, qui est journaliste indépendant, qui est chercheur, et qui a publié un ouvrage intitulé « L'islam imaginaire ». Il a étudié de près quelle a été la construction médiatique de l'islamisme ou de l'islamophobie, disons, en France entre 1975 et 2005. La burqa a une histoire.
Il y a eu une affaire mondiale qui a eu lieu au début de l'année 89 qui s'appelle l'affaire Salman Rushdie ou l'affaire des versets sataniques. Il y a eu un énorme débat en France comme dans plein d'autres pays sur la liberté d'expression, sur le fanatisme musulman, qui ont été posés, qui ont été levés par les médias, par un certain nombre de responsables politiques qui ont estimé, exactement comme dans l'affaire des caricatures, la récente affaire des caricatures, qui ont estimé qu'il fallait défendre la liberté d'expression, il fallait défendre un certain nombre de valeurs dont l'Occident serait le berceau. Bon, ça c'est des choses qui ont été dites. Là-dessus, on est toujours en 89. Il se trouve que le 14 juillet 89 et l'année 89, on célébrait le bicentenaire de la Révolution française. Donc il y a une auto-exaltation, une auto-satisfaction qui s'est manifestée dans des célébrations, toute une série d'émissions, de discours. Et Ce contexte particulier a fait qu'à la rentrée scolaire de septembre 1989, des journalistes, en réalité, d'Antenne 2 et du Nouvel Observateur, ont estimé qu'il était important, urgent, nécessaire de faire une émission et un dossier spécial en ce qui concerne le Nouvel Observateur sur le fanatisme religieux. Parce que c'était la terminologie de l'époque, on parlait beaucoup de fanatisme. On n'avait pas encore utilisé le terme d'islamisme, on utilisait le terme de fanatisme. Avec toutes ces références à la révolution iranienne qui avait eu lieu 10 ans avant. Et à partir d'un petit exemple local à Creil, qui avait été relayé d'abord par le courrier Picard, ensuite par l'agence France Presse, l'AFP, pour faire une accroche actu, comme on dit dans les médias. La rédaction d'Antenne 2 a décidé de médiatiser cette affaire, c'est un choix, ils ont décidé de médiatiser cette affaire pour justifier le fait de revenir sur cette question du fanatisme qui avait été beaucoup débattue 6 mois avant dans le cadre de l'affaire Rushdie. Et cette émission s'est focalisée sur cette question du foulard à l'école, de la laïcité, etc. Et ça, cette émission a participé au lancement d'une affaire, quoi, une affaire médiatique très importante. Et pendant des semaines et des deux semaines, c'est-à-dire pendant près de 3 mois, je crois, jusqu'à la fin de l'année, les milieux médiatiques se sont mis à débattre de cette question. Il y a eu plein d'éditoriaux, plein de prises de position, plein de courriers des lecteurs sur cette affaire de foulard, et avec cette dimension dominante qui est que non, il faut que la France, pilier des droits de l'homme, pilier de tout ce qu'on veut, n'accepte pas ce signe d'obscurantisme, de sexisme, d'inégalité des sexes, etc. Bon. Voilà, c'est absolument clair, quoi, que c'est une affaire qui a été montée, qui a été lancée par les médias, qui a été attisée par une concurrence entre les médias, qui a été exploitée par des responsables politiques qui ont joué des jeux à plusieurs bandes pour lutter contre des adversaires politiques en interne ou en externe, et qu'à la fin, on a totalement évacué, ce faisant, la question sociale. Puisque, finalement, on est aussi dans un contexte où Mitterrand vient d'être réélu et qu'on est exactement dans les mêmes thématiques qu'en 81, où à partir du moment où la gauche est au pouvoir, elle évacue la lutte des classes, elle évacue la question de la domination sociale. Bon, ben voilà. Et là, avec ça, avec ce genre de débat sur le foulard, sur l'islam, sur l'intégrisme islamiste, le terrorisme islamique et toutes ces questions-là, on divise absolument les luttes de revendication sociale. Ouais, je veux dire, c'est clair. Et à partir du moment où ça a été lancé comme une affaire médiatique, un certain nombre de gens ont instrumentalisé cette question pour à d'autres fins, tout bêtement. Voilà, c'est un instrument. L'islam, c'est un instrument. Et je pense qu'il est urgent d'avoir des discours de contre-propagande, quoi. C'est ça la priorité, c'est de lutter contre ce discours de propagande.
Pour la première fois ce matin, la police était présente devant le lycée Romain Rolland. Sans doute pour empêcher les incidents d'hier, quand le lycée était bloqué par un piquet de grève composé d'élèves et de personnes étrangères au lycée.
Antenne 2.
Ce matin, plus de grève, le comité de soutien aux jeunes filles voilées suspend son mouvement.
27 septembre 1994.
Réunis en assemblée générale hier, les professeurs sont catégoriques contre le port du voile au nom de la laïcité, contre les méthodes du comité de soutien.
Ce qu'on sent, c'est qu'il y a une pression, oui, qui s'exerce sur les élèves, qui a quelque chose qui est de l'ordre du terrorisme, si on peut employer ce terme, je crois, dans ces cas-là, puisque c'est une pression qui est aussi bien verbale, d'abord, que physique, et qui met les élèves dans un état de peur. Je crois que c'est ce qu'on appelle le terrorisme.
De la part d'islamistes, de militants islamistes?
Je ne les connais pas. De la part d'individus qui ne sont pas connus de nous comme étant des lycéens.
Abdelaziz Chambi, tu as 52 ans. Mmh. En 1983, tu étais parmi les marcheurs. Donc la marche, ce que la mémoire collective a retenu, la marche des beurs.
Bien sûr, j'ai
commencé. Donc ça, c'était en 83. Et en 1992, tu es celui qui a mis ici en place pour la première fois en 1992.
Le premier congrès de la jeunesse musulmane, effectivement, en 92 ici, avec l'Union des jeunes musulmans, dont je suis un des cofondateurs. On a lancé un travail au Menguette. Alors, c'était pas le hasard. On l'a choisi volontairement aussi.
Ici.
Moi, ici. Pourquoi? Parce que la marche est partie des Menguettes. Faut pas l'oublier. Donc, c'est la révolte des gens des quartiers populaires qui exigeaient l'égalité de traitement, l'égalité de droit et de la lutte contre le racisme. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer qu'on voulait continuer ce combat politique pour la revendication d'égalité de droit et de traitement, mais en même temps dire, aujourd'hui, c'est plus nos parents qui vont être dans l'invisibilité culturelle, dans l'invisibilité de leur identité, dans l'invisibilité de leur religion, c'est plus l'islam des caves. On veut, nous, aujourd'hui, revendiquer à la lumière, au vu aussi de tout le monde, le fait qu'on est musulman, mais qu'on est citoyen et qu'on veut participer.
Ça, c'était donc en 1992 avec le premier congrès des jeunes musulmans de France.
Exactement, on a fait 92. Alors au préalable.
Et comment il a réagi, donc André Gérin, à l'époque, il était le maire.
Nous, on avait créé l'Union des jeunes musulmans en fin 87. Donc à Lyon, on était déjà, on commençait à se faire connaître sur la place publique. Et on est venu effectivement à Vénissieux, on a ouvert là la tour 15, là, qui est juste là.
En face de nous, là.
Un lieu de culte. Donc là, André Gérin, il était tout ouïe. Le bonhomme, il a été élu grâce aux voix des musulmans à chaque élection municipale.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est certain, et tout le monde le sait, et il suffit de regarder dernier épisode.
Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, à l'époque, tu étais quand même un acteur incontournable face à M. Gérin,
oui.
Donc tu as appelé à voter pour lui.
Oui, nous, on préférait, je le cache pas, même aujourd'hui, moi je préfère voter pour un mec communiste que laisser le Front National prendre une municipalité et m'imposer une politique à Vitrolles ou à ce qu'on a vu à Orange. C'est-à-dire que c'est un mec qui a compris que les musulmans peuvent être rentables politiquement, il n'y a pas que lui d'ailleurs.
André Gérin, à cette époque, est déjà l'interlocuteur, votre interlocuteur, c'est le maire, donc ici pour Vénissieux, et donc a fortiori du quartier où on est, les Minguettes. Est-ce que de cette époque, de 92 jusqu'à ses dernières sorties médiatiques, notamment contre la burqa, est-ce qu'il a vu se développer ou non ce que certains appellent, et même beaucoup, le salafisme, ici aux Minguettes?
Alors, moi, je
alors, il n'entrait pas du tout dans les nuances.
Moi, je le défie, et je peux vous prouver par A plus B, qu'il a été le premier à laisser s'installer quelques groupes, effectivement, salafistes, en tout cas d'obédience salafiste sur sa commune, qui sont parfaitement identifiés par les pouvoirs publics, par les RG et par les militants associatifs. Il prétend aujourd'hui faire son combat républicain, n'empêche que c'est un bonhomme qui était à Guantanamo pour aller chercher Mourad et Nizar Sassi, Mourad Ben Chalali. Il est allé défendre des gamins qui étaient soi-disant impliqués dans le terrorisme international, qui étaient non pas des salafistes ou des frères musulmans, des terroristes potentiels. Il ne faut pas qu'ils nous la jouent à l'envers. Donc c'est un mec qui deal avec les musulmans, en même temps il leur crache dessus. Il veut être plus royaliste que le roi, donc il sort un truc encore plus gros, quoi. Voilà. Vous voyez, la burqa, machin, liberté des femmes. Liberté de quoi? Mais qui regarde l'Assemblée nationale? Lui, il siège, il y a 12% de femmes. Pourquoi il ne vient pas faire le ménage chez lui? Il n'a qu'à nettoyer. Pourquoi il y a 20%, 30% de salaire en moins pour les femmes? Pourquoi il ne se préoccupe pas de ça? S'il veut se préoccuper de la situation de la femme, qui balaye devant sa porte ce mec, qui nous aide à faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale il y ait la mixité et la parité. Donc c'est des combats qui sont truqués, on sait que c'est truqué, on sait que ce sont des gens qui veulent faire carrière politique sur le dos d'une population donnée. Ils l'ont fait sur les immigrés, Le Pen il l'a fait sur le dos de nos parents, et eux ils veulent la faire sur nous aujourd'hui.
Voilà, on continue la balade avec Abdelaziz Chambi dans son quartier à Vénissieux. En ce moment, c'est le Ramadan, c'est pas facile de rencontrer les gens pour discuter. Mais dès qu'il s'agit de ce problème, on trouve quand même des bavards.
Petite partie de pétanque au soleil, il en reste encore.
Quelle heure il est? Il est 19h45.
Oh, le ballon!
C'est quelqu'un qui fait une émission avec Daniel Mermet sur France Inter.
Ouais.
Donc moi, il est en train de m'interviewer en tant qu'un ancien acteur ici, là, de Minguette, etc. Et il voulait avoir un peu l'avis des jeunes, donc c'est quelqu'un qui est prêt à s'exprimer là-dessus.
Savoir ce que vous en pensez, ouais.
Pensez de quoi?
La campagne qu'a lancée, comment s'appelle, André Gérin sur la burqa, par exemple. Et qu'on cherche à avoir...
Non, c'est un prétexte qu'ils cherchent, les gens. Ils ont rien à dire d'autre, et voilà, ils cherchent musulmans aussi. Mais je sais pas pour il a peur pourquoi. Si par exemple il sait pas reconnaître une femme ou un homme ou les histoires de terrorisme ou un truc comme ça, bon, tellement que ça c'est vague maintenant avec les histoires de 11 septembre, il y a un peu de tout. Demain tu vas entendre parler de dans la baignoire il y a un mouton, il y a une poule, il y a si. Et pourtant il est là, hein, il vient se couper les cheveux à la rotonde, on le croise tous les samedis, plein de sourires, plein de vices.
Ouais, parce qu'il est resté député.
Il est resté député. Il est égaré pour nous. Hein. Pour nous, il est égaré. Hein. C'est toujours les mêmes sujets.
Toi, t'as quel âge aujourd'hui?
Moi, j'ai 25 ans.
Et t'es né ici, toi, t'as connu ici.
J'ai pas jamais bougé d'ici. Et c'est toujours la même merde. Le foulard, les musulmans, y a pas de travail, c'est les émeutes, c'est la drogue, c'est ci, c'est ça.
Tu travailles?
Je travaille, je suis intérimaire. Ouais. Mais bon, je suis un cas sur 10. Y a un cas sur horaire. On est par exemple les 10 personnes, je suis seul à travailler, par exemple.
Ouais. Les autres, vous travaillez pas de boulot, les autres?
Non.
Non?
Non, on travaille pas.
C'est la crise totale.
Ouais. On se démerde, ça gratte un peu, on prend un peu d'argent, on achète des lots, on vend des parfums et voilà. Et les gens ils croient que c'est du malhonnête, mais voilà, on peut pas faire autrement pour payer le loyer.
C'est toi qui le paye?
C'est moi et ma famille. Bon, par exemple, mon père il est décédé, donc c'est moi qui paye. C'est moi l'aîné de la famille, je suis obligé d'assumer. Si moi je paye pas le loyer, les petits vont les braquer. C'est un exemple, t'as vu? Et voilà quoi, 750€, la maman elle peut pas payer tout seul, ça fait on est obligé de l'aider. Et je parle pour mon cas à moi, mais c'est le cas de tout le monde ici, on est tous dans le même cas, tu vois, c'est tous la même merde. On cherche à survivre.
Et ça, ce qu'ils ont fait, on l'a fait avant.
Voilà.
C'est ça le comble. C'est-à-dire que sur une génération sur l'autre, les mêmes problèmes.
C'est-à-dire que toi, 30 ans avant,
oui,
tu faisais pareil.
On, des gens de chez nous, on s'en passait, on fait la même chose. C'est-à-dire que la situation n'a pas bougé.
Demain, quand on entend les histoires d'électeurs, tout ça, tellement que ça avance pas, on voit des grands frères, nos parents, tout ça, pas avancer. Pourquoi tu veux que nous, on va faire la même chose? On va s'enfoncer. Eux, ils ont fait la même chose, ils sont galérés, ils ont fait la marche, la marche de Marseille. Ça, ils sont tous là.
La marche des beurs dans les années
80. La marche des beurs, ils sont tous ici. Ils ont fini comment? Ou SDF, ou alcoolo, ou en prison. Ça fait nous la seule chose maintenant que, alhamdoulilah, il y a la salade, frère.
La prière.
La prière. On fait la prière et on se met à Dieu. Il n'y a que ça de vrai.
Vous là, assis sur le banc avec votre pote,
c'est
pareil, pas... même point de vue?
Bah, c'est le même point de vue.
Ouais. Il y a l'islam, sinon t'aurais pété un plomb.
C'est pas que j'aurais pété un plomb, mais je serais pas dans les mêmes circonstances, frère. Il y a 5 ans en arrière, j'aurais pas parlé avec toi. Pour moi, tu serais un flic. T'as vu, je serais parano, ah, c'est un flic, ah, si, la drogue, putain, ils veulent nous baiser, d'où il sort, un dimanche. C'est un dimanche en plus. Tu vois ce que je veux dire? Attends, encore 5 minutes après, je vois les flics passer, ça fait.
c'est clair.
On baiser. Mais alhamdoulilah, frère, je fais le ramadan, je suis en train de jeûner, t'as vu, comme on dit en français. Maintenant, frère, on essaye de s'insérer dans l'islam, mais il y a que ça de vrai. Pour nous, hein, personnellement, les jeunes. De nos jours, on est comme ça.
TF1.
On n'est pas polygame.
Nicolas Sarkozy.
On pratique pas l'excision sur ses filles. On n'égorge pas le mouton dans son appartement.
5 février 2007.
Et on respecte les règles républicaines.
Très beaux exemples, ça va beaucoup
ça
plaire
n'a...
à beaucoup de gens.
Ça n'a...
Ah, c'est pas... Ah
non, monsieur.
C'est honteux.
Mais même
c'est
monsieur.
De la religion
monsieur,
musulmane,
mais
peut-être,
attendez.
Je suis d'origine
attendez,
algérienne
attendez.
Et je suis musulmane et je me sens insultée.
Bonjour, je viens pour compter le nombre de burqas.
Voilà, on continue toujours à Vénissieux et retour à André Gérin, ex-maire de Vénissieux et député communiste, je le rappelle. Il faut rappeler aussi que on a essayé d'interroger des porte-parole du Parti communiste qui n'ont pas souhaité se prononcer, mais enfin on sait que on ne peut pas dire qu'il ait un très large soutien à l'intérieur du Parti communiste français. Son point de vue.
Dans les fins des années 80, début 90, à peu de choses près, les arguments contre le port du voile sont les mêmes que les arguments aujourd'hui contre le port du voile intégral, à peu de choses près. Donc on parlait déjà de combat républicain, de pratiques vestimentaires liberticides, mais vous, à la même époque, au même moment, on vous voit dans une vidéo où vous faites face à une assemblée, dans un grand gymnase, donc forcément de la municipalité, coupé en deux. Donc d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, et déjà, je crois que c'est 92-93, et on voit énormément de femmes, pour pas dire la totalité, très couverte. Il manque juste un petit bout de tissu pour que ce soit pas un voile intégral. Et à ce moment-là, vous dites, eh ben, on a les mêmes préoccupations.
Depuis, j'ai fait ma prise de conscience par rapport au rôle et à la place des fondamentalistes dans ma ville, comme ça se passe au niveau du pays. Mais je crois que ceux qui reprochent aujourd'hui, eh bien, c'est ceux qui contribuent justement à soutenir avec Tariq Ramadan les fondamentalistes.
C'est qui les fondamentalistes? Vous dites qu'il y a derrière un projet politique. Qui viendrait d'où? Ce serait quoi la base de ce projet politique? Les références, c'est qui?
C'est ceux qui envoient des gamins de la région parisienne en kamikaze en Irak. C'est les attentats qu'on a vus au Maghreb, en Angleterre, etc. Voilà.
Vous êtes capable de dire ce que représentent les fondamentalistes en France?
Pas du tout.
10, 15, 2%, 20?
Pas du tout. Aucune idée. Moi, je suis contre le pourrissement moral et culturel. Je suis contre laisser faire cette nouvelle extrême droite pourrir la vie de nos quartiers. Parce que les fondamentalistes, c'est l'extrême droite. D'une manière globale, depuis 15-20 ans, on a laissé faire les choses. Il faut savoir si on a des valeurs et des idéaux à défendre qui sont issus de la Révolution française.
Le problème de l'islam, à mon avis, c'est moins Tariq Ramadan que David Pujadas, quoi.
Thomas Daltombe.
On pointe du doigt une communauté qu'on a créée, quoi, qu'on a créée par des mots, par des images, par la répétition de ces mots et ces images en permanence. On a créé quelque chose qui a l'air d'être la réalité, mais qui en fait n'est pas la réalité, et que les milieux, on va dire, au sens large, qui ont construit collectivement et parfois inconsciemment cette représentation de la réalité, exploite ça. C'est comme un capital dans lequel on peut puiser en permanence, quoi. Ah, il y a un petit exemple de ceci dans une piscine, dans un hôpital, dans une école, dans un truc. On prend cet exemple, qui est qu'un exemple, qui doit être contextualisé. On le colle avec un autre exemple qui vient d'ailleurs. Et on les met tous bout à bout. On en fait un discours qui, au final, devient un discours propagandiste, quoi. La propagande, elle vient pas d'Islamabad ou de je ne sais où. Ils viennent de la rédaction de France 2 ou de TF1, très largement, ou du Monde, ou de je ne sais qui. La communauté musulmane, c'est un terme qui apparaît à une époque donnée, en 89. On peut même retrouver la première émission où on parle de ça, si vous voulez. L'islamisme, c'est pareil, c'est quelque chose qui est daté, c'est le début des années 90. C'est très précisément entre la première guerre du Golfe et le début de la guerre civile algérienne. C'est à ce moment-là qu'on parle de l'islamisme. C'est pas des choses qui existent éternellement et qui tombent du ciel. Non, c'est pas des trucs qui existent, c'est des trucs qui sont construits. Tout ça, c'est des instruments, quoi. C'est des instruments, c'est des armes. C'est des armes symboliques. À force, j'ai regardé plein d'émissions, j'ai écouté plein d'émissions de radio, j'ai lu des tonnes d'articles et tout. Au bout du compte, ça permet aussi de justifier, de banaliser tous les processus de discrimination, d'exclusion sociale, géographique. À partir du moment où, ah bah oui, l'islam, c'est érigé comme problème et qu'on va prouver ça avec toute une série d'exemples, de pseudo-exemples remoulinés pour qu'ils s'intègrent bien dans le discours médiatique. Et bah, du coup, bah, oui, vous comprenez, si c'est ça le problème prioritaire, la question du logement, la question du travail, la question du chômage, des discriminations, tout ça, ça devient secondaire. Vous comprenez bien qu'il y a une offensive massive et concertée du Pakistan, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, ou je ne sais quoi, et qu'effectivement, si on braque tous le regard là-dessus, bah, les véritables questions liées aux questions du travail, on les oublie. Très souvent, si on fait tout simplement un travail statistique, on s'aperçoit que on parle énormément des questions d'islam, très rarement, finalement, à l'initiative de milieux musulmans, mais beaucoup plus fréquemment à l'initiative des milieux dirigeants. À mon avis, ça devrait mettre la puce à l'oreille, quand même, dans la question à qui ça sert.
Alors, retour sur le terrain, à Vénissieux, avec Abdelaziz Chambi.
Nous, on était un peu, pas utopistes, mais optimistes, dans le sens où on s'est dit, pourquoi la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et la JOC, jeunesse ouvrière chrétienne en France, qui ont fait à peu près le même cheminement que nous, dans le cadre d'éducation populaire, dans le cadre des camps, dans le cadre des activités socio-éducatives, pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas le même scénario, mais non pas avec la droite, mais avec la gauche? Nous, on y a cru. On a dit, à un moment donné, on avait même pensé à une jonction avec le reste, entre guillemets, des prêtres ouvriers, parce qu'on en a connu quelques-uns, et nous, quand on a eu la démarche avec André Gérin, même le Parti Socialiste s'intéressait à nous. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une concurrence entre le Parti Communiste et le Parti Socialiste, à qui pouvait se rapprocher le mieux des musulmans. Et je me rappelle, même le PS, on a fait des réunions publiques avec eux, et des réunions de travail avec eux, et ils nous avaient dit, écoutez, vous dites que le foulard, c'est pas une obligation, les premières affaires du foulard, et nous, on ouvre tout, comme ça, textuellement. Donc lui, il y avait une sorte de concurrence. Et nous, on y a cru, on a dit, tiens, une gauche intelligente, c'est une gauche qui tombe pas dans les préjugés, qui tombe pas dans les mises en garde bidons des RG, des préfectures, etc., et qui dit, moi, je suis au mieux du terrain, je connais mieux la réalité du terrain, et c'est avec ces gens-là que je vais pouvoir cheminer, parce que c'est eux les acteurs du terrain. Et aujourd'hui, la criminalisation, la diabolisation évoluant, nous évoluons avec l'âge, ma génération en tout cas, on a fait un chemin vers la citoyenneté, vers la responsabilisation, vers l'investissement citoyen. Et ben, d'autres qui arrivent aujourd'hui ont vu que le refus continue, le rejet continue, la diabolisation continue, s'enferment un peu plus, deviennent un peu plus radicaux que nous on l'a été. Mais on a un moment
comment
donné...
Comment ça, plus radicaux?
Plus radicaux dans le sens où l'expression, enfin l'attitude, l'apparence vestimentaire est beaucoup plus marquée, beaucoup plus différenciée des autres.
La rupture politique.
Le discours, la rupture politique, évidemment, c'est des cofards, c'est des mécréants, je traite pas avec eux, c'est une société de mécréants. C'est des ruptures à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, le système veut que l'encouragement du communautarisme impulsé un peu par Sarkozy fait que ils se répondent, quoi. Ça se répond. Moi, je vais remettre en cause la loi sur la laïcité, la loi 1905, pour faciliter, soi-disant, le truc de l'intégration des musulmans en France. Mais c'est pas vrai, on n'a pas besoin de ça. Nous, il suffit que le droit actuel soit appliqué de manière égalitaire, on n'aura pas de problème. Donc, il y a une sorte un peu d'appel du pied au communautarisme, aux écoles privées, au commerce communautaire. Et donc, il y a de fait ça qui se joue. Ce qui fait qu'on est dans une société qui se communautarise dans la parcellisation du vivre ensemble. Et ça, c'est le danger. C'est ça qui nous guette demain. Chacun va se préoccuper ou va bouger que lorsqu'il sera touché, lui, dans ses problèmes spécifiques. Alors que tu sois athée, juif, bouddhiste ou chrétien ou musulman, ça, c'est des choix personnels que tu fais, mais qui ne m'empêchent pas de te connaître, de chercher à connaître ta spécificité pour mieux nous entendre en tant qu'humain, en tant qu'être humain. L'islam recommande ça. Et alors qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les salafistes, en tout cas un courant parmi ces salafistes, prend la rupture avec l'autre, prend la diabolisation de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il fait la réponse du berger à la bergère. La France ne veut pas reconnaître ces gens-là, et eux disent on ne reconnaît pas la France.
Alors pour toi, finalement, se poser la question de savoir si le salafisme c'est dangereux ou pas, c'est pas la question.
Pour moi, c'est une question secondaire. Si le salafisme est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des conditions, il y a des attitudes, il y a des postures politiques, il y a des postures d'intellectuels, d'hommes de médias, de faiseurs d'opinion, qui font qu'à un moment donné, ça devient la mode. Au point que des apprentis sorciers politiques comme André Gérin tombent dans le panneau en pensant tirer le jackpot.
Vous m'avez demandé quelle était mon opinion.
Oui, absolument.
Eh bien, je vais vous répondre.
France 2, 29 juin 2009.
Il y a, d'une part, le fait que moi je suis comme Fadela Amara, atrocement choquée.
Elisabeth Badinter.
De ce que sont devenus ces belphégores, ces fantômes, en ce qui concerne le combat pour l'égalité des sexes, que quand même on a mené depuis très longtemps. Mais je voudrais faire observer quelque chose qu'on observe rarement. En Occident, dans la civilisation occidentale, partout, la politesse minimum, la sociabilité minimum, c'est qu'on montre son visage à l'autre. Le visage, c'est l'ensemble de la personne. C'est une... Quand on se cache derrière un grillage ou un voile noir, vous êtes voyeuriste. C'est insupportable. Et c'est une entorse, mais profonde, à la sociabilité, mais primaire. Et moi, je pense que, et les garçons, et les filles qui se cachent le visage, sont en tort. Et ça devrait être interdit.
Alors, Madame Badinter, Elisabeth Badinter, qui est très en pointe dans cette histoire de burqa, n'a pas peur des contradictions. On sait qu'elle est la première actionnaire de l'entreprise Publicis. Et Publicis a été maintes fois épinglée pour ses pubs sexistes. En 2002, par exemple, pour les soutiens-gorge Barbara, on pouvait lire avec ses soutiens-gorge « Quand on me dit non, j'enlève mon pull ». Ou un autre slogan était « Mon banquier me préfère à découvert ». En 2003, Publicis ça a été épinglé pour... Cette fois-ci, c'était pour une pub, pour une marque de soupe. Et la pub, le texte disait « À quoi rêvent les blondes ?» Au moins 7 minutes d'intelligence par jour pour les blondes. Et encore récemment, en décembre 2008, une campagne Publicis pour la marque Sloggy de dessous, et qui montrait un postérieur féminin avec comme slogan en promo dans vos points de vente. Tout ça, c'était des campagnes Publicis. On finit avec Thomas Deltombe.
C'est non seulement marginal, mais surtout c'est la conséquence d'un certain nombre de phénomènes. C'est pas une cause, quoi. C'est pas en allant faire plein de reportages sur la burqa, le burkini ou autre fadaise qu'on va régler ces questions-là. Au contraire, à mon avis, il y a vraiment une question de priorité, quoi. Effectivement, les questions liées à l'islam, à la religion musulmane en France sont des questions. C'est des questions effectivement qu'on peut avoir, qu'il faut discuter, etc. Mais il y a une question de priorité. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est de débattre sans fin sur le foulard, la religion musulmane, ou de s'intéresser en priorité à ceux qui instrumentalisent ces questions de façon très perverse pour leur carrière personnelle, à l'intérieur de structures, à l'intérieur de médias, à l'intérieur de partis politiques, à l'intérieur de syndicats, ou qui utilisent cette question pour diviser et désolidariser les mouvements de contestation, les mouvements de lutte sociale. C'est ça la vraie question. Tout à l'heure, vous me faisiez écouter le je sais même pas comment appeler ça, de monsieur Christophe Barbier, là. Bon, c'est, y a rien de plus classique. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce discours, il est basé sur des exemples. C'est très souvent comme ça, dans les éditos de BHL, de Caroline Forest, tout ça, c'est des exemples. Alors, oui, il y a quand même tel exemple qui prouve bien que, et à partir d'un cas individuel, on va le généraliser. Et ce qui peut être effectivement une difficulté interpersonnelle entre deux personnes dans la rue, dans une ville, ça va être élevé à un niveau public, et cette question interpersonnelle qu'il peut y avoir va devenir un choc entre deux blocs, entre deux segments culturalisés de la société française. Un choc de communauté, quoi. De communauté artificielle, totalement créée par du discours, quoi. qu'est-ce que c'est que la communauté musulmane en France ? Les musulmans, enfin, c'est des constructions symboliques, c'est des constructions médiatiques, et ça devient des outils de propagande. Pour moi, c'est clair.
Donc, si je vous comprends bien, avec toute la construction médiatico-politique qu'il y a autour de la question de l'islam, de son concept d'islam, du coup, avec tout ce que vous décrivez, on peut difficilement être contestataire et musulman en même temps.
C'est pas simple, effectivement. Là, ouais, c'est une bonne question, ça. On serine tellement ces trucs-là, on répète tout le temps ces trucs-là, que du coup, ça devient des évidences, au bout d'un moment. Alors que c'est pas du tout des évidences, c'est des constructions. Mais bon, bref, pour quelqu'un, un homme ou une femme qui veut rentrer dans un parti politique, dans un syndicat, très rapidement, s'il a une position un tout petit peu un tant soit peu décalée, à mon avis, très rapidement, il risque d'être soupçonné de « oui, mais lui, c'est quand même parce que derrière, il va à la mosquée, on ne sait pas trop ce qu'il écoutait à la mosquée. » Et puis, boum, très vite, il est disqualifié ou elle est disqualifiée. Alors que, de mon point de vue, je pense qu'on peut tout à fait être un musulman pratiquant et être un révolutionnaire, pourquoi pas. Et un révolutionnaire au sens marxiste du terme. Je vois pas pourquoi. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Allez,
merci à tous. Je rappelle le titre du livre de Thomas Deltombe, L'Islam imaginaire. Merci à Abdelaziz Chambi, Thomas Deltombe aussi. Merci à André Gérin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org. Patrick Henry et Sophie Moreau étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attends vos messages au répondeur de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.